À l'écoute de Radio France Internationale, il est maintenant 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Dans RFI Soir, voici une nouvelle demi-heure consacrée à l'information. Information en Afrique, c'est avec vous, Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. La guerre dans l'est de la RDC, le Qatar reçoit le M23 et une délégation congolaise à Doha. Après avoir réuni il y a 10 jours les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. La crise au Soudan du Sud et les menaces sur l'accord de paix. Le médiateur kényan, l'ex-premier ministre kényan Raila Odinga est arrivé à Juba. Le secrétaire général de l'ONU, vous l'entendrez, appelle lui les dirigeants sud-soudanais à déposer les armes. Au Burkina Faso, la répression contre la société civile et la presse s'intensifie. Human Rights Watch appelle à la libération de 3 journalistes arrêtés lundi. Le Gabon, l'avocat de Sylvia Bongo, l'épouse du président déchu Ali Bongo et de son fils Nourdine, dément les propos du président de transition Brice Oligui Nguema. Il affirme que ses clients, incarcérés depuis le putsch d'août 2023 à Libreville, ont subi des actes de torture. Nous reviendrons sur le bilan du sommet de Paris contre la malnutrition. Plus de 27 milliards de dollars promis, c'est un record et un défi alors que l'aide américaine a été supprimée par Donald Trump. Enfin, musique, nous écouterons la jeune rappeuse centrafricaine Katy Pop qui fait fureur à Bangui. Le Qatar toujours en pointe sur la scène diplomatique dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Après avoir accueilli le 18 mars et à la surprise générale, on s'en souvient, une rencontre entre les présidents congolais Tshisekedi et rwandais Kagame, Doha reçoit, selon nos informations, des délégations de la RDC et du groupe armé M23. Alors doit-on y voir le début d'un dialogue direct entre les deux parties à Kinshasa, Pauline Azidi?
Officiellement, aucune information ne circule sur ce qui se passe actuellement au Qatar. Aucun camp n'a d'ailleurs encore communiqué sur sa présence à Doha. Difficile de confirmer, avoue en effet un proche du palais ici à Kinshasa, qui ajoute que désormais le président agit en toute discrétion. Une autre source à la présidence congolaise nous confirme tout de même qu'une délégation de RDC est bien arrivée au Qatar, délégation composée des chefs du renseignement. Plusieurs autres sources confirment, elles, la présence à Doha du M23. En revanche, pas d'informations sur la venue de représentants de Kigali. En tous les cas, cette activité diplomatique pose la question du rôle de cette médiation qatarienne qui prend de l'importance. Après l'entretien des deux présidents, plusieurs sources proches du dossier expliquaient pourtant que l'objectif n'était pas de créer un processus de Doha, mais de reconstruire la confiance. Est-ce que ces délégations vont se rencontrer ? Personne ne s'avance sur ce point. Il y aurait plusieurs préalables à régler avant de pouvoir réunir autour de la table les différents acteurs. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et puis on a appris qu'un accord avait été conclu entre le M23 et la SADC pour l'évacuation de la force militaire déployée à Goma par le bloc des pays d'Afrique australe. Mi-mars, la SADC a mis fin au mandat de la force régionale SAMI-RDC qui était déployée depuis décembre 2023 dans l'est de la RDC. Sans pouvoir stopper la dernière offensive du M23. Bonsoir Lisa Fabian.
Bonsoir.
Et les modalités du retrait des militaires de la SAMI-RDC ont été précisées lors de la réunion de ce vendredi.
Le document conjoint publié à l'issue de cette rencontre indique que les chefs d'état-major des armées d'Afrique du Sud, de Zambie, du Malawi et de Tanzanie étaient tous présents à Goma face à Sultani Makenga, le chef militaire du M23. À l'issue de leur réunion, les deux parties ont convenu que le M23 faciliterait le retrait immédiat des troupes de la SAMI-RDC avec leurs armes et équipements, et leur départ se fera via l'aéroport de Goma qui doit donc être réparé puisqu'il est pour l'instant inutilisable. La SADC et le M23 ont décidé de mettre sur pied un comité conjoint chargé d'évaluer l'état de l'aéroport. La SADC s'est aussi engagée à participer à sa réparation. Depuis la prise de la ville de Goma, plusieurs organisations de l'ONU et de la région demandent la réouverture de l'aéroport international de la ville en vue d'y créer un couloir humanitaire. L'accord signé aujourd'hui est un premier pas d'envergure dans cette direction. Par ailleurs, le ministre de la Défense congolais et la ministre des Affaires étrangères congolaise étaient en Afrique du Sud cette semaine, Kinshasa souhaitant renforcer les liens avec ce pays, particulièrement dans le domaine de la défense, selon les officiels congolais.
Lisa Fabian sur RFI dans Afrique Soir. Deux jours après le placement en résidence surveillée de Riek Machar, le vice-président du Soudan du Sud, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pris la parole face au regain de tension de ces dernières semaines et surtout face au risque de voir le pays retomber dans la guerre civile. Antonio Guterres demande aux dirigeants sud-soudanais de déposer les armes.
For the sake of the long-suffering people of South Sudan, it's time for dialogue and de-escalation.
Pour les longues souffrances endurées par le peuple du Soudan du Sud, c'est le temps du dialogue et de la désescalade. La Corne de l'Afrique connaît déjà des troubles et ne peut pas se permettre un autre conflit, et le Soudan du Sud non plus. Alors aux dirigeants de ce pays, je dis arrêtez la confrontation, relâchez les officiels militaires et politiques immédiatement, restaurez le gouvernement d'unité nationale et mettez en œuvre vigoureusement vos promesses en vous engageant dans l'accord de paix, qui est le seul cadre légal pour l'organisation d'élections pacifiques en décembre 2026. Le Soudan du Sud est oublié de tous, mais nous ne pouvons pas laisser le pays sombrer dans l'abîme. Maintenant, plus que jamais, les dirigeants du Soudan du Sud doivent porter un même message avec clarté, déposer les armes et mettre le peuple sud-soudanais au premier plan.
Voilà pour la déclaration d'Antonio Guterres. Le ministre de l'Information du Soudan du Sud, lui, a confirmé officiellement que le vice-président Riek Machar a bel et bien été assigné à résidence. On le sait, son arrestation fait craindre le retour de la guerre civile. Quant au médiateur kényan, l'ex-premier ministre Raila Odinga, il est arrivé à Juba.
RFI à Libreville. 104 FM.
Les avocats de la famille Bongo réagissent aux propos du général Oligui Nguema sur RFI et France 24. Mardi, le président de la transition gabonaise avait assuré que Sylvia et Nourdine Bongo, détenus depuis le coup d'État du 30 août 2023, n'avaient pas subi de torture et qu'un procès aurait lieu au terme de l'enquête sur la base d'éléments que la justice a recueillis contre eux. Selon maître François Zimmeret, non seulement ses clients sont détenus hors de tout cadre légal, mais ils ont bien subi des actes de torture dont il a vu, dit-il, lui-même les marques physiques et mentales et pour lesquelles il a saisi la justice en France.
J'ai souvent rencontré des victimes, j'ai vu des choses difficiles, mais je dois dire que j'ai rarement été bouleversé comme je l'ai été lorsque j'ai vu Sylvia Nourdine Bongo. Et j'affirme, ils ont été torturés. Peut-être que le général ne le sait pas. Et ces tortures avaient pour objectif d'obtenir d'eux le transfert de la totalité de leurs biens auprès de proches du régime. Leurs comptes ont été vidés, les villas qu'ils possédaient, les biens immobiliers qui appartenaient à Sylvia Bongo avant son mariage ont été réattribués au président Oligui ou à des proches. Voilà ce qui s'est passé. Vous savez, ce sont des gens qui sont dans un deuxième sous-sol, sans voir le jour, depuis 18 mois. Dans des conditions épouvantables, ils ont été torturés dans des conditions que je ne vais pas détailler pour ne pas porter atteinte à leur intimité, à leur dignité. Je l'ai vu de mes propres yeux, je sais reconnaître quelqu'un qui est traumatisé, les récits sont concordants, il se trouve qu'il y a eu aussi des témoignages, donc nous avons un dossier qui est extrêmement solide.
Des propos recueillis par François Mazet concernant Ali Bongo, maître Zimmeret dément qu'il soit libre de ses mouvements, comme l'a dit le président de la transition. Son avocat parle même d'une assignation de fait à résidence. Le Burkina Faso, la répression contre la société civile et la presse s'intensifie. Human Rights Watch s'alarme. L'organisation de défense des droits humains dénonce l'arrestation l'espace d'une semaine du journaliste Idrissa Bari, de 4 autres militants du mouvement politique Sens qui ont été emmenés sans mandat ni motif officiel, tout comme le président et le vice-président de l'association des journalistes du Burkina, ainsi qu'un reporter de la chaîne privée BF1, tous détenus dans un lieu encore inconnu à ce jour. Ilaria Legrosi, chercheuse sur le Sahel pour Human Rights Watch, estime que le musellement de toute voix dissidente est devenu la règle.
C'est une répression qui s'intensifie alors que le pays plonge progressivement dans une situation de violence à grande échelle. Et les mépris du gouvernement pour les libertés fondamentales, les libertés civiques risquent vraiment d'amener à la disparition totale des organisations indépendantes, des médias indépendants qui continuent et essaient de publier des opinions critiques contre la junte au Burkina. On peut dire que la répression a atteint des nouveaux sommets et que le gouvernement recourt de plus en plus à la répression contre ceux qui demandent des comptes à la junte ou les personnes qui osent dénoncer les dérives de la junte, par exemple les atteintes aux droits et libertés fondamentales, les exactions commises par les militaires dans le cadre de la lutte contre les groupes armés islamistes. Il y a carrément des efforts concertés du gouvernement pour décimer les médias indépendants, les voix discordantes et la société civile.
Des propos recueillis par Sidi Ansané. Vous écoutez RFI, Afrique Soir, 19h40, ici à Paris, où s'est achevé à la mi-journée le sommet contre la malnutrition. L'action collective peut faire la différence. C'est par ces mots que la secrétaire générale adjointe de l'ONU a refermé ce sommet pour cette troisième édition, la première depuis l'annonce du quasi-démantèlement de l'aide américaine par Donald Trump. 106 États et plus de 500 participants se sont réunis pendant deux jours. Et malgré le désengagement des États-Unis, la mobilisation a été au rendez-vous. États, sociétés civiles et donateurs ont promis plus de 27 milliards de dollars, un record salué par la France. Christina Okello.
Nous avons dépassé la somme de Tokyo sans les États-Unis, déclare soulagé Thani Mohamed Solehi, ministre délégué à la francophonie. La France salue une prise de conscience mondiale contre la malnutrition après deux jours de sommet à Paris. Plus de 27 milliards de dollars ont été promis, 5 milliards pour la Banque mondiale, 9 pour la Banque africaine de développement et plusieurs milliards de la part du secteur privé. Un record alors que l'aide américaine s'effondre depuis le démantèlement de l'USAID par Donald Trump. L'édition 2025 s'est donc tenu sans le premier bailleur mondial, mais avec l'ambition d'ancrer la nutrition dans 80% des budgets nationaux sur 5 ans. Objectif, améliorer les repas scolaires, mais aussi lutter contre la faim, le surpoids et la précarité alimentaire. Mais certains restent prudents. On se vante d'avoir dépassé Tokyo, mais on n'a jamais vu la couleur de ces fonds, rappelle une activiste ougandaise. Le défi reste donc la mise en œuvre et la continuité du processus. Les États-Unis n'ont toujours pas confirmé l'accueil de la prochaine édition censée s'éteindre à Los Angeles.
Et face à la malnutrition, nous ne devons pas seulement parler, mais agir, martèle la Banque mondiale. Comment mobiliser le secteur privé? Comment compenser la perte de l'aide au développement américaine? Axel van Trotsenburg, directeur général senior à la Banque mondiale, détaille les missions et les stratégies de son institution. Il répond à Alexis Bédu.
C'est une combinaison. Il y a ce que les donateurs vont fournir, mais il est absolument essentiel que les pays eux-mêmes continuent d'investir. Cela nécessitera des milliards de dollars, non pas en une seule fois, mais de manière continue. C'est le message que nous transmettons. La communauté internationale peut accompagner les pays, mais au final, ils devront aussi consentir d'importants investissements.
Alors l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest font partie des régions où la situation s'est le plus détériorée ces dernières années, d'autant plus que plusieurs pays occidentaux réduisent leur aide au développement. Ce fut le cas de la France, c'est particulièrement le cas des États-Unis qui se sont désengagés au début de l'année, qui n'étaient pas présents à ce sommet. Comment faire face à cet arrêt de l'aide américaine si elle se confirme ?
Nous avons constaté une diminution de l'aide au développement et ça nous inquiète. Nous sommes très actifs auprès des donateurs, mais aussi du secteur privé pour qu'ils restent engagés auprès des pays en développement. Nous disposons d'un fonds destiné aux pays les plus pauvres, appelé l'Association internationale de développement. Nous venons de finaliser un cycle de financement de 3 ans avec une enveloppe allant jusqu'à 100 milliards de dollars, dont environ 70 milliards seront destinés à l'Afrique. Nous souhaitons que les donateurs bilatéraux poursuivent leurs efforts et restent généreux. Mais en tant qu'organisation, nous ne voulons pas nous inscrire dans une logique de réduction des financements. Au contraire, nous voulons renforcer notre engagement.
We, as an organization, don't want to join the chorus of reducing. In fact, we want to increase our engagement.
Et donc le secteur privé, les banques multilatérales peuvent compenser cette
I don't think so. I don't think so that the amounts can be very, very large.
Je ne pense pas. Les montants peuvent être extrêmement élevés, donc il faudra combiner plusieurs sources de financement. De nouveaux acteurs émergent, que ce soit des marchés émergents ou des pays comme la Corée du Sud qui a intensifié ses programmes de développement. Ce qui est clair, c'est que nous ne disposerons pas de toutes les ressources nécessaires, mais nous aurons les moyens financiers suffisants pour agir efficacement.
We will have the working capital to make a difference.
Axel Van Trotsenburg, directeur général senior de la Banque mondiale avec Alexis Bédu et une traduction d'Éric Chorin.
Dakar. 92 FM.
C'est une bonne nouvelle pour le Sénégal après le gel brutal des projets d'aide financés par les États-Unis en février. On en a parlé. Dakar bénéficie d'une dérogation exceptionnelle pour un projet et c'est un soutien crucial à l'accès à l'électricité dans un contexte économique tendu pour le pays. Juliette Dubois.
Tiéboudienne, Niassa, le riz brisé importé d'Asie est le produit alimentaire le plus consommé au Sénégal avec une demande annuelle d'1 300 000 tonnes. Les discussions au sein du Conseil national de la consommation ont abouti à une réduction de 60 francs CFA du kilogramme, fixant désormais son prix de détail à 350 francs CFA contre 410 francs CFA auparavant. Le contexte mondial a facilité cette mesure puisque le prix du riz est à la baisse depuis le début de l'année. Les pluies abondantes en Asie ont stimulé la production. L'Inde a repris les exportations de riz brisé début mars et ses concurrents asiatiques comme la Thaïlande ont baissé leur prix pour rester compétitifs. Le ministre de l'Industrie et du Commerce Serine Gaye Diop s'était également rendu en Inde d'où provient l'essentiel du riz consommés dans le pays pour obtenir des conditions d'importation plus avantageuses en supprimant notamment des intermédiaires. La mesure qui s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à réduire le coût de la vie des Sénégalais sera officiellement entérinée par le président Bassirou Diomaye Faye le 3 avril. Un dispositif renforcé de surveillance et de contrôle sera mis en place. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et on l'a compris, hein, le prix des denrées alimentaires est une obsession presque pour les ménages africains. Ainsi, au Tchad, le ramadan a pesé lourd sur le portefeuille des populations. Pourtant, en février dernier, en prévision du début du mois du jeûne, le ministère en charge du commerce avait interpellé les opérateurs économiques pour les inciter à baisser les prix de ces denrées alimentaires. Mais de nombreux habitants à N'Djamena se plaignent d'avoir vu les prix de plusieurs aliments essentiels comme l'huile, le sucre ou encore le poulet augmenté tout au long du mois. Bilan des effets économiques du ramadan pour les habitants de N'Djamena. Reportage de notre correspondance Nadia Benmafoud.
Dans la petite cour d'une concession de Clémat à N'Djamena, Camis et sa fille Haché se préparent à aller au marché. Ils sont 8 dans la famille, sans compter les amis et les voisins qui se joignent à eux tous les soirs pour l'iftar. Ils doivent donc composer avec la hausse des prix de certains aliments.
Cette année c'est mieux, c'est l'huile qui a augmenté. L'huile était chère, de 10 litres. Avant c'était à 22 000, maintenant c'est 32 000.
Et le reste de la viande, les légumes?
Non, les légumes là, c'est pas changé. Même chose, pas changé.
Mais moi, on me dit que c'est quand même assez cher.
Ouais, mais c'est pas, non. C'est qu'au marché, il y a un autre prix. Tu vas à Diguel, autre prix. Tu vas au marché du Mille, autre prix. Chacun met ce qu'il veut.
Est-ce que ça vous pousse à réduire un peu votre panier?
Ça ne réduit pas. Ça ne réduit pas. Donc, c'est le seul mois, donc. On va faire tout le moins possible, c'est ça.
Le matin, le marché central de N'Djamena grouille de monde. Amira se faufile entre les étals. Elle s'arrête devant un boucher.
La viande, ça va. Je râle les petits.
C'est pas très cher, c'est le poulet qui est cher. Pendant le ramadan, tout a augmenté.
Un peu plus loin, on retrouve Abiba. Elle est vendeuse de poulet et selon elle, c'est tout l'inverse. Les prix ont même diminué.
La madame a commencé, là, on nous a diminué ça à 24 000. Oui. Nous, on vend à 3 000, 2750.
Mais moi, j'ai rencontré des clients qui m'ont dit que le poulet était très cher cette année. Non.
Là-bas, là, c'est poulet naturel, poulet de village. Donc, on vend ça cher. 1 kg 100, là, on vend ça à 2750. Et là-bas, poulet de village, là, c'est à 3500.
Même si les prix ont moins augmenté cette année, pour cette mère de famille de 22 ans, l'enveloppe dédiée aux courses a malgré tout plus que doublé, Alimé. Donc c'est comment le budget pour une famille par jour?
Je peux dire 10 000, 15 000.
Alors qu'en temps normal, c'est combien?
En normal, je peux dire 5 000.
Ah oui, donc c'est fois 2, fois 3.
Fois 2, fois 3.
Comment vous faites?
Alhamdoulilah, on gère.
La prochaine grosse dépense sera celle des cadeaux et des nouveaux vêtements pour l'Aïd El Fitr qui viendra clore ce ramadan dans quelques jours. Nadia Benmafoud, N'Djamena, RFI.
Bientôt 8h10 ici à Paris, à suivre ce soir sur votre antenne sur RFI. Pourquoi RFI dit ça? À suivre donc cette semaine, l'émission va revenir sur ce classement de l'université d'Oxford selon lequel la Côte d'Ivoire est le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'auditeurs ont accueilli la nouvelle avec circonspection, mais c'est un résultat nuancé, nous dit Benoît Almeras.
Je pense qu'il faut relativiser, la Côte d'Ivoire est dans le ventre mou,
98e sur 147 pays dans ce classement du World Happiness Report de l'université britannique d'Oxford. 98e, c'est loin derrière la Finlande, hein, qui est numéro 1 depuis 2017, et l'île Maurice, qui est le premier membre de l'Union africaine à la 78e place.
Pour RFI, dit ça, c'est à 19h40, temps universel à suivre encore ici l'Europe avec cette semaine. Pour commenter le sommet à Paris consacré à la défense de l'Ukraine, nous recevrons l'un des participants avec un rôle très stratégique, la Finlande, le président finlandais Alexander Stubb. Et puis la musique avec couleur tropicale, invité Mr. Big Mo et Idrissa Diop. On va écouter justement un extrait de Mr. Big Mo.
Mazel veut un wheel dog, un wheel shoot, un big doogie. Grand big mo, grand big man, un big sooty. Un wheel OG qui a fait chiffre, un wheel boss qui pas qu'à snitch. DJ mashup, petit place, bully party. Only fan, min baby, ni tout. Chata gal, lifestyle, y'a tout. Please cash independent, qu'après tout. Ensuite, style, classe, ni goût. Champagne, sit up, cocotte, kawan. Tonight, ça mat, madax, level la high. Tout mon la hot, nous tout cash, ain't baby. Fais fly, y'a pas faute, aïe soirée là-bas. Si y'a mes cash 4-4, des gros motos. Y'a un carré là, en mode VIP, ça chaud chaud. Baby, barré là, why not les big moves. Laisse un café splash, à 4 pattes, t'aimes mes coco. Ben fais-moi du sale, lâche-toi sur la basse. Carré VIP en feu, nous cash, aïe n'a que boss. Ben t'es un flic, un strip, j'suis en trip. On skip les jaloux, on les envoie sur orbite. Pussy, make me crazy. Faut qu'on marie en faut qu'on marine. White skin, light skin, brown skin, black skin, cold. Bon, moi, y'a un real dagarin. Champagne, si tape, cocotte, kawan. Tonight, ça mat, madax, level la high. Tout moun la hot, nous tout cash, ain't baby, fait fly, y'a pas faute, aïe, soirée là-bas. Si y'a mes cash 4-4, des gros motos. Y'a un carré là, en mode VIP, ça chaud chaud, baby,
carré là. Monsieur Mr. Big Mo, artiste afro-caribéen de la Guadeloupe et de la Martinique, dont le dernier disque est sorti en septembre 2024. Il sera donc dans Couleur Tropicale. Skin brown, skin black, skin cold. Bon, moi, y'a un real dagarin. Champagne, c'est tap, cocotte, kawan. Tonight, ça mat, madax, level la high. Tout mon la hot, nous tout cash, ain't baby, fait fly, y'a pas faute, aïe, soirée là-bas. Si y'a mes cash 4-4, des gros motos. Y'a un carré là, en mode VIP, ça chaud chaud. Baby, barré là, why not les big mots. Laisse un café splash, à 4 pattes, t'aimes mes coco.
Wine up, look a fly and a white pussy pack up. Shot a gal, the haters on the mash up. On chill to the night, pussy cock up.
RFI.
Musique toujours, on va quitter les Antilles pour la Centrafrique et pour parler de la révélation musicale de l'année, il s'agit de Katie Pop, de son vrai nom Louisa Amanda Bacossa. C'est une étudiante en troisième année de diplomatie et de relations internationales. Elle étudie à Bangui, elle s'est engagée dans la musique, notamment dans le rap il y a presque 3 ans. Katie Pop fait aujourd'hui partie des rares jeunes filles qui font du rap en Centrafrique. Elle vient même de sortir son nouveau titre baptisé Sugar Daddy qui cartonne actuellement dans le pays. Et Rolf Steve Domiale l'a rencontré pour RFI.
Monzoko Timbia Dewa ou Mbipusuna Dawa.
Katie Pop et la musique, c'est une histoire d'amour. À tout juste 22 ans, elle fait partie des rares femmes qui font le rap en Centrafrique. Dans les quartiers, sur la scène ou encore dans les bistrots, son charisme et sa voix mélodieuse ne passent pas inaperçus. Comme beaucoup d'autres musiciens, Katie Pop a commencé la musique dans une chorale.
Ça a toujours été une passion. Je fais du rap engagé, mais je chante également, donc moi je n'ai pas de style musical approprié. J'ai commencé à l'église et après je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une carrière musicale.
Soko chimbia dewa wa mbipusu na dawa Mbobaela zozo bia moko chindulechiwa
De son vrai nom, Luisa Amanda Bakossa, Ketchy Pop trouve ses inspirations à travers les réalités sociales.
Comme je le dis toujours dans mes sons, Mbibaela Mbitene, donc j'ai l'habitude de juste observer. Ça fait que je suis beaucoup plus calme. Ça dépend également de mes humeurs de temps à autre.
En plus de la musique, Ketchy Pop est également étudiante en troisième année de diplomatie. Même si c'est difficile de concilier les deux, elle a le soutien de ses parents. Mélissa est sa grande sœur.
Je trouve qu'elle est talentueuse et si elle est bien entourée, elle peut aller vraiment de l'avant. Elle se donne déjà à fond. Je vois que beaucoup de gens apprécient sa musique. Non seulement elle fait la musique, mais elle continue d'aller à l'école et elle est toujours parmi les premières. Donc on ne peut que l'encourager.
Sugar, 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 daddy. Sugar, 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 ala yeka menge. Sugar, 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 daddy.
Luisa Amanda Bakossa chante pour dénoncer les mots qui minent la société. Son dernier titre, Sugar Daddy, vise à dénoncer le comportement de certains pères de famille qui harcèlent les jeunes filles pour avoir des relations sexuelles avec elles.
J'ai été confrontée à ce genre de situation. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose là-dessus? Et je raconte en fait le fait que les petites filles qui sortent avec les hommes âgés qui ont plus ou moins le même âge que leur père pour des raisons financières, matérielles et autres. Mais je trouve que ce n'est pas du tout normal. Ces hommes-là, ils sont juste là pour un truc précis. Et après, rien du tout.
Avec le titre Sugar Daddy qui cartonne actuellement dans le pays, Ketchy Pop compte conquérir le public international. Rolf Esteb Doumialeu.
Yeah.
Bongi, RFI.
Sugar, 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 daddy. Sugar, 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 ala yeka menge. Sugar, 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 daddy.
Ketchy Pop de Centrafrique, merci pour la découverte. Rolf Steve Domialeux à Bangui, merci de nous suivre également. À la réalisation ce soir, Raphaël Azizi. Merci à toute l'équipe d'Afrique Soir. Alexis Guilleux avec nous, Guillaume Bédrane. Restez à l'écoute, son info revient dans un peu plus de 3 minutes.
Sugar, 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 daddy. Sugar, 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 ala yeka menge. Sugar, 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 daddy. Sugar, 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 ala yeka menge. Sugar, 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 daddy. Sugar, 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 ala yeka menge. Sugar, 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 daddy. Sugar, sugar.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Cisjordanie occupée, bande de Gaza, Palestine, que recouvrent ces dénominations ? Il est parfois difficile de s'y retrouver dans cette géographie marquée par la politique, le droit et l'histoire, avec pour chaque zone concernée une réalité un peu différente.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval. Tout à l'heure à 19h41 sur RFI. Un jour au village, Penaï Traoré.
La malnutrition est l'une des premières causes de mortalité infantile dans le monde, surtout en Afrique subsaharienne. Comment y mettre fin ? Acteurs publics, privés et de la société civile proposent des initiatives locales pour y faire face.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.
RFI, la sélection du mois.
Zar électrique. Rima.
RFI Musique.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp, l'actualité autrement, l'information quand vous voulez.